18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité sont les congrès du Modène FA Lumana et du MPR Diamouria, tous deux tenus le samedi 19 septembre 2020, respectivement à Dosso et à Niamey, ainsi que le point de presse du candidat élu du Modène FA Lumana, Hama Amadou, mardi à Niamey. En seconde position, nous parlerons du procès en appel mardi des acteurs de la société civile Michael Zodi, Halidou Moukaila et Moudi Moussa. L'actualité, c'est aussi la situation politique au Mali avec la nomination d'un nouveau président pour la transition. Pour analyser ces informations, j'ai le plaisir de recevoir au téléphone Gary Amadou du quotidien La Nation. Gary Amadou, bonsoir.
Bonsoir.
Ousseini Issa Djibo, journaliste indépendant. Ousseini Issa Djibo, bonsoir.
Bonsoir.
Et Maimouna Diado, journaliste indépendante également. Maimouna Diado, bonsoir.
Bonsoir.
Au microphone, Mokhtar Hamad. Nous ouvrons ce forum avec la situation politique au Niger. Présidentielle 2020-2021, deux nouveaux prétendants s'ajoutent aux autres candidats à la magistrature suprême du Niger. En effet, samedi 19 septembre 2020, le MPR Diamouria a investi son président Albadé Abouba comme candidat à la prochaine élection présidentielle. C'était au cours du deuxième congrès ordinaire du parti tenu à Niamey. Et à Dosso, c'est l'opposant Hama Amadou, ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, qui a été investi candidat du Modène FA Lumana, toujours ce même samedi 19 septembre, à la suite de la reprise du troisième congrès ordinaire du parti. Mardi 22 septembre, le candidat élu du Modène FA Lumana a animé un point de presse à Niamey. Hama Amadou a saisi l'occasion pour échanger avec les journalistes sur la situation sociopolitique et économique du Niger, mais aussi sur plusieurs aspects de son programme de société. Gary Amadou, que peut-on retenir de ces deux congrès, Gary Amadou?
Ce qu'on peut retenir de ces deux congrès, c'est que d'abord celui du MPR Diamouria, c'est que ce congrès en confrontant l'ambition du candidat Albadé Abouba à briguer la magistrature suprême du pays avec un projet que le MPR Diamouria dans le président à l'intérieur de ce congrès-là, des projets de société vraiment pour changer la société nigérienne. Donc c'est une surprise parce que l'annonce avait été il y a bien longtemps que Albadé Abouba serait candidat, mais là, c'est vraiment des choses concrètes et officiellement. Albadé Abouba est le candidat du MPR Diamouria pour piquer la magistrature suprême. Maintenant, concernant le Modène FA Lumana, effectivement, la situation est un peu plus compliquée au niveau de ce parti-là. Parce que vous vous rappelez, ce même 19 septembre, deux abus ont eu lieu, une au gouvernorat, n'est-ce pas, avec les partisans de Hama Amadou, et une autre au niveau de l'Occident, avec Omar Roma comme président. Et ces deux assises, vraiment, ont eu des résolutions. C'est vrai qu'au niveau du meeting qui s'est déroulé à l'arène, les partisans de Hama Amadou ont investi, signifie comme candidat du parti pour l'élection présidentielle. Mais le lendemain, quand même, je crois que Omar Roma a fait, en tout cas, apporté un entretien intéressant de la place pour laquelle il a dit que le Lumana n'a pas de candidat pour le moment. Donc, ce qui remet encore la situation du parti, en tout cas la crise du parti, à la lune, avec vraiment des possibilités d'un second round, d'une saison mieux, comme disent les gens, du feuilleton Lumana, qui risque d'arriver au niveau de la justice. Pour le moment, je pense que les deux, parce qu'ils ont déposé leur conclusion au niveau du ministère des Affaires, pour pouvoir pratiquer en fonction des textes de la République en fonction du document qu'il a en tête. Donc, on va pouvoir partir pour dire que quel est le congrès qui est validé parce que, il faut qu'on dise, il y a eu deux congrès à l'issue de la République.
Nous allons revenir dans ce studio, Memoun Diadou. En parallèle avec le congrès du MPR Yamouria, c'était né à Dosso, à 139 km de la capitale, les travaux de la reprise du troisième congrès ordinaire du Modène FA Lumana. Qu'est-ce qui a particulièrement retenu votre attention au sujet de ce congrès, Maïmouna Diadou?
Parlons d'abord du congrès du MPR Yamouria. Le MPR Yamouria, nous savons déjà que le candidat s'est déjà prononcé avant même son investiture. Vous avez vu comment est-ce qu'il y a eu des coups bas pour pouvoir affaiblir le parti, le MPR Yamouria.
Des coups bas de venant
d'où? Venant de, vous savez déjà d'où est-ce que ces coups bas viennent, de leurs alliés. Les coups bas viennent de là-bas, ça ne peut pas être de l'opposition quand même. Donc, ils ont tellement intimidé le MPR Yamouria parce qu'ils savaient déjà que le MPR Yamouria, Albadé Abouba sera candidat. Donc, en faisant le congrès, en mettant en place ce congrès et en investissant le candidat, je pense que les dés sont jetés. Aujourd'hui, la mouvance au pouvoir avec la MRN, déjà la MRN se dégage avec un candidat parce que l'autre, l'APR, ne fait pas partie de la MRN, c'est vrai, mais c'est une autre partie. Donc, ça veut dire que déjà, Albadé
Donc, au niveau de la MRN, en dehors de Bazoum, il n'y aura aucun candidat?
Bon, les candidats que nous voyons, ce sont des candidats, après leur congrès, se disent soutenir le candidat donc, du pouvoir, qui est Bazoum. Donc, je pense qu'en fait, ils voulaient également que Albadé Abouba, selon moi, selon mes conclusions, la conclusion que je peux donner, ils ont vraiment, véritablement, c'était une surprise à leur niveau parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que aujourd'hui Yamouria présente un candidat aux élections. Ils auraient bien voulu que Albadé Abouba s'aligne comme les autres partis politiques.
Il faut noter aussi qu'il y a deux partis issus du MPR Yamouria d'Albadé Abouba, le parti d'Almou Mourou et celui de Amadou Salifou.
Oui, c'est ce que je suis en train de dire en fait. Ils ont concassé le MPR Yamouria pour faire sortir d'autres partisans du MPR Yamouria qui vont les soutenir à ces élections. Donc ça veut dire que Amadou Salifou n'est pas candidat. Amadou Salifou soutient l'autre Bazoum Mohamed. Et ça sera la même chose pour Alma. Parce que c'est en fait, il fallait voir, il fallait s'attendre à ça. Mais je pense que le MPR Yamouria n'a rien à perdre parce que c'est un parti de toutes les manières qu'il faut compter avec.
Et au niveau de Lumana?
Au niveau du Modène FA Lumana, c'est un peu compliqué, si je pourrais le dire ainsi. Mais je vois que les deux congrès, parce que l'autre, je ne parle même pas de congrès. Parce que le vrai congrès qui a eu lieu, c'était le congrès au niveau de l'arène de lutte traditionnelle. Tout le monde a vu le monde qui a drainé. Et par contre, de l'autre côté, c'est à l'hôtel Toubal de Dosso, je pense bien, qu'il a tenu, Noma a tenu ses assises. Et les délégués se retrouvent de l'autre côté avec Hama Amadou, la conférence. Parce que vous savez, la conférence d'abord a été tenue avant la veille du congrès. Parce que suite à une ordonnance d'heure en heure,
une
décision de justice d'heure en heure.
Référé en appel.
Oui, voilà, référé en appel et qui donne l'autorisation à Hamamadou et ses partisans de convoquer la conférence. Donc je pense qu'il n'y a pas de débat à faire autour de cela, mais les jours à venir vont nous édifier parce que là nous voyons Noma également qui sort pour dire qu'ils n'ont pas jusqu'à présent élu un candidat pour le parti Modène FA Lumana.
Ousseyni Sajibo, quelle analyse faites-vous de la sortie médiatique mardi dernier de l'opposant Amadou?
Bon, mais vous savez, c'est la sortie médiatique dont vous parlez, c'est que ce n'est pas seulement mardi dernier. Hama est entré en scène depuis pratiquement le congrès de l'investiture.
C'est le mardi qu'il a animé une conférence de
la
presse.
La première fois qu'il est sorti depuis pratiquement et sa sortie de prison, c'était à l'occasion du congrès d'investiture de, je crois, la Dinkana. Et là, il a dit clairement les choses. Il a dit clairement les choses que, bon, il faut que les Nigériens se lèvent. Et moi, je pense que un peu la démarche, ou du moins c'est la posture adoptée par le pouvoir, c'est de faire en sorte que Hama ne puisse pas, ou du moins l'éliminer politiquement, qu'il ne puisse plus être quoi que ce soit dans ce pays. Et il est en train de leur montrer que ce n'est pas possible. Il ne peut pas l'éliminer du terrain politique.
Les propos qu'il aurait tenus avaient été diversement appréciés.
Ici
au Niger.
Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Qu'est-ce qu'il a dit de grave? Moi, je ne vois pas ce qu'il a dit de grave.
Par exemple, mardi dernier, il avait dit que si la Cour constitutionnelle venait à rejeter sa candidature, ce qui s'est passé au Mali.
Mais le problème, est-ce qu'il a dit que c'est un coup d'État qui va se produire? Il n'a jamais dit ça. Il dit ce qui s'est produit au Mali. Mais les gens, ils ont occulté tout ce qui s'est passé au Mali. Parce que, Ibeka, il y a eu une mobilisation populaire pendant combien de temps avant que l'armée n'intervienne sur la scène politique? Ça, les gens perdent de vue cet aspect. Les gens ne voient que l'autre aspect. Il n'a jamais parlé de l'autre aspect. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, en tout cas, par rapport à sa situation, c'est que les gens veulent lui coller des choses dont il n'est pas du tout, en tout cas, il n'a pas pris. Mais il dit, les gens vont se battre. Les gens vont se battre. Et aujourd'hui, tous les Nigériens sont convaincus que les 10 ans de gestion de ce pouvoir-là, tous les Nigériens sont convaincus que ça a fait reculer le pays. C'est faux. Ce que les gens disent, les gens qui pensent que non, on a avancé, c'est faux. On a plus reculé. Les gens ont volé l'argent public. Ils se sont enrichis. Ils ont construit des buildings. Des gens sont devenus milliardaires. Ils n'ont hérité de absolument rien du tout. Et là, moi, j'ai dit quelque part. Et on voit encore, ce n'est pas fini. C'est qu'il faut qu'on casse encore son parti. Parce que ce qui s'est passé à Dosso, tout le monde sait. Un congrès se convoque avec des délégués. C'est Noma même qui a convoqué le congrès. Les gens ont dit, bon, on va te suivre, on va aller à Dosso avec toi. On va aller tenir le congrès. Mais tu ne peux pas venir, parce que dans tous les cas, il y a une coordination régionale à Dosso. C'est la coordination régionale qui organise Noma TV à Niamey. Comment tu vas aller? Parce que tu as vu du monde de l'autre côté, tu vas louer une salle d'hôtel, une salle de conférence d'hôtel pour dire que tu vas organiser pour un parti comme Lumana. Est-ce que l'hôtel Toubala peut contenir tout le bon monde là qui est arrivé des 8 régions du pays? Il y a même des gens de la diaspora qui sont arrivés. Si ce n'est pas de la mauvaise foi. Considérer que c'est comme ça, ça veut dire que tout simplement, Noma est à nu. À nu. Et quand les gens parlent de deux congrès, moi pour moi, le congrès de Noma, il a fait une rencontre avec des jeunes gens qui sont venus assister. Mais on ne fait pas un congrès avec des individus qui n'ont même pas peut-être la carte du parti politique et dire que c'est un congrès. Et que de l'autre côté, les gens qui sont venus, qui ont des mandats, qui sont venus de toutes les régions du pays, et lui, il dit non, il n'a pas encore investi. Lui qui?
Gare Amadou, est-ce que les Nigériens sont surpris par rapport à la candidature, à l'investiture du président du MPR Diamouria, Albadé Abouba?
Non, moi je vous dis que je ne suis pas surpris parce que en fait, cet événement-là avait été annoncé il y a plusieurs mois de cela. Donc ce n'est pas étonnant, c'est vraiment la concrétisation qui a eu lieu le 19 septembre dernier, la candidature de Albadé Abouba. Comme je l'ai dit, c'est une candidature du MPR Diamouria, il y a un projet. Le projet qui a été expliqué par Albadé Abouba, pas de long à l'arrêt, c'est la société. Et donc, vraiment, c'est un projet ambitieux. Et on verra bien si les Nigériens vont en tout cas adhérer à ce projet-là. Maintenant, concernant ce qui s'est passé au niveau de Dosso, je le dis et je le répète, il y a eu deux assises. Déjà, il y a une chose qui est extrêmement importante. Les assises de Dosso ont été convoquées par le président Omar Mouba. Il dit qu'il a dit à Dosso, il y aura des assises. Et les gens sont partis à Dosso. Donc, quelque part, c'est la reconnaissance un peu de sa légitimité. C'est vrai que les deux activités ont eu lieu dans des lieux différents. Il appartiendra maintenant à quelqu'un qui dit que non, ce qui s'est passé là-bas à l'arène, c'est un meeting. Le congrès a eu lieu au gouvernorat. Ce qui s'est passé au gouvernorat et ce qui s'est passé à l'hôpital, ce qui s'est passé au gouvernorat, qui bon. Moi, je ne le sais pas. Il appartiendra au ministère de l'Intérieur. Maintenant, tout à l'heure, Ousmane disait que tous les Nigériens sont convaincus que la 10 ans de gestion était. Parce que je ne sais pas sur la base de quoi Ousmane parle de tous les Nigériens. C'est un sondage qu'il a fait, je ne sais pas. Et où, qu'est-ce qui se passe sur quelle base il permet de dire que tous les Nigériens sont. Non, moi je ne m'avance pas sur des choses comme ça. Je Il m'a battu du concret, vous comprenez?
Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Le procès en appel des trois acteurs de la société civile nigérienne a eu lieu mardi à Niamey. Le délibéré est prévu pour le 6 octobre 2020. Pour rappel, Michael Zodi, Halidou Moukaila et Moudi Moussa sont gardés en prison depuis le mois de mars pour participation à une manifestation non autorisée. Rappel Samna Daouda, l'un des avocats de la défense.
Nous avons rappelé le fait que la place de ceux qui dénoncent n'est pas en prison. Un état de droit voudrait que la liberté de manifestation soit garantie. Et aujourd'hui, nous avons dit à la Cour, notamment à la Chambre d'accusation, que c'est son rôle et c'est le rôle des juges de prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, rien ne justifie encore la détention de Michael Zodi, de Halil Moukaila et de Moudi Moussa. Et nous attendons alors la réponse de la Chambre d'accusation le 6 octobre prochain. Et nous espérons que cette fois-ci, le son que la Cour va envoyer, il sera un son que, légitimement, nous sommes en droit d'attendre. Surtout que, aujourd'hui, à la date de ce jour, ils ont fait déjà plus de 6 mois. Et conformément à la loi, le mandat devait être renouvelé, mais il n'a pas été renouvelé. Donc aujourd'hui, ils sont détenus sans titre.
Ousseini Sajibo, quel commentaire après avoir écouté l'un des avocats des acteurs de la société civile?
Moi, je pense par rapport à cette affaire-là, je pense qu'il ne devait même pas être en prison. Pratiquement. Parce que ce que Maître vient de dire, c'est que ils sont sortis pour dénoncer un fait. Un fait qui n'a pas été contesté, à savoir le détournement au niveau du ministère de la Défense nationale. C'est des milliards qui ont été dilapidés. Et les personnes, ou du moins c'est les opérateurs économiques, parce qu'on n'a même pas parlé des acteurs de l'administration publique qui ont permis cela.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une enquête qui était en cours?
S'il te plaît. Une enquête, ça se fait de manière globale. Quand il y a une enquête, est-ce que moi je peux me donner un marché au niveau du ministère de la Défense? Est-ce que les commerçants, c'est des gens qui ont signé des actes pour dire vous avez droit à tel marché, n'est-ce pas? Eux, les fonctionnaires de l'administration, il n'y a pas eu de sanctions. Les fonctionnaires, ou du moins les opérateurs communiques fournisseurs de l'État, on les a entendus, ils ont reconnu les faits. Combien de milliards? C'est revenu pratiquement à environ, je ne sais plus exactement, 18 milliards le montant global. Progressivement, on a réduit ce montant. Mais s'il vous plaît, est-ce que dans un pays pauvre, dernier de la planète, comme le nôtre, on peut se permettre ce genre de choses? On dit non, ils vont payer, quand ils ont reconnu les faits, on dit ils vont payer et ils vont rester libres. Mais il y a combien de voleurs de portables qui sont en prison? Il y en a combien? Il y en a combien? Peut-être c'est un morceau de pain que la personne a subtilisé en passant, on les prend, on les jette en prison. Mais pourquoi faut-il que dans un pays pauvre, comme je viens de le dire, on se permette de mettre à l'abri, créer les conditions d'impunité pour une catégorie de citoyens et considérer qu'il y a une catégorie de citoyens qui...
Est-ce que les Nigériens ne sont pas allés vite en besogne?
Non, c'est pas allés vite en besogne. Ils ont eux-mêmes reconnu. Les fournisseurs ont même eux reconnu. Mais non. Mais voilà des gens, parce que tout simplement, ils sont sortis pour vouloir dénoncer. Parce que véritablement, il n'y a même pas eu la manifestation ce jour-là. Et ils étaient au nombre de 6 à être interpellés. On a libéré 3. C'est les 3 là qui sont restés jusqu'ici. Et maintenant, on tiraille. Est-ce qu'ils n'ont pas de garantie de représentation pour être libres? Comme je l'ai entendu dire qu'il fallait qu'ils disposent d'une garantie de représentation. Est-ce qu'ils n'ont pas de garantie de représentation? Ils sont tous ici. Ils ont leur maison ici. Ils ont leur famille ici. À partir de ce moment, moi, je ne vois pas. Je ne sais pas dans quel jeu on est. Mais toujours est-il dit que ce qui s'est passé, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de priver quelqu'un de sa liberté pendant combien de mois? C'est bien avant, et je crois, le mois de juin, qui sont en prison. Ils ont passé pratiquement...
Depuis mars.
OK. Alors, ils sont restés exactement. En prison jusqu'ici. Bon, on va voir ce qui va se passer. Et, comment dire, dans quelques semaines, dans 2 semaines tout au plus, on va voir ce qui va se passer. Mais toujours est-il dit que bon, ça monte un peu. Ce qui se passe sous ce régime-là. Malheureusement, je le dis, ce qui se passe, c'est comme si l'impunité est consacrée pour les autres, Mais les autres, souvent, qui n'ont rien fait de grave, c'est eux qui sont sanctionnés.
Mamoudou Diallo, que pensez-vous de la détention jusque-là de ces trois acteurs de la société civile?
Mais je rejoins ce que Houssène vient de dire à l'instant. C'est une détention arbitraire. Ces trois ne devraient pas être en prison. Parce que, quand vous regardez, ce sont des défenseurs des acteurs de la société. Ce sont des défenseurs des droits de l'homme. Ils n'ont fait que remplir leur devoir. Leur devoir, c'est quoi? C'est de dénoncer. Ils l'ont dénoncé. Et je pense qu'en dénonçant aujourd'hui, combien de personnes ont su véritablement ce qui s'est passé dans cette affaire du ministère de la Défense nationale. Donc, je me dis que l'impunité, s'il y a d'autres personnes qui doivent jurer de l'impunité, les trois personnes là doivent également jurer de cette impunité. Parce que réellement, vous ne pouvez pas. Les vrais voleurs, les vrais criminels, les vrais coupables, si je peux le dire ainsi, sont dans la rue. Aujourd'hui, on se regarde. Ils ne sont même pas inquiétés. Mais parce que tout simplement, ils ont eu une couverture d'une grande hauteur, qui leur permet aujourd'hui de mouvoir et de faire ce qu'ils veulent. Mais les trois ne peuvent pas aujourd'hui rester en prison. Rester en prison, c'est trop dit. Et je pense qu'on ne peut pas leur dire également de payer de l'argent jusqu'à une hauteur de, la hauteur de 5 millions, si j'ai bonne mémoire.
Chacun
pour pouvoir recouvrer leur liberté. Mais dans ce cas, si on demande à tous ceux qui sont en prison de payer de l'argent pour recouvrer leur liberté. Mais moi, je pense que même si j'ai les 5 millions, je n'allais pas payer les 5 millions parce que je me dis que je suis coupable de rien. Je suis coupable de rien. En décidant de payer même les 5 millions, ils se condamnent. Donc, c'est même mieux ainsi. Et je pense que, comme l'a dit l'avocat, Samna, c'est ça, je pense qu'ils ont espoir cette fois-ci que le 6, la cour d'appel, va rendre un verdict vraiment équitable et que nous allons retrouver nos confrères et nos camarades en liberté cette fois-ci.
Gare Amadou, pensez-vous que ces acteurs de la société civile doivent recouvrer leur liberté?
Parce que vous savez, la plupart sont des amis, différents et différents. Un ami, c'est aussi un ami. Mais vous rappelez-vous ce que j'ai dit sur le plateau de Karamou. J'avais dit que moi, je ne voudrais pas qu'il soit libéré sans qu'il y ait un procès, parce que ce n'est pas à leur honneur. N'oubliez quand même pas que ces manifestations qui ont eu lieu ont eu, en tout cas, entraîné des morts d'hommes. Je crois qu'on a quand même un peu de respect pour ces gens-là qui ont perdu des parents lors de ces événements-là. Moi, ce que je voudrais, c'est que nos amis puissent recouvrer la liberté à partir d'un procès équitable. Vraiment, un verdict sera dit. Moi, je ne fais pas dans le ce que j'ai dit, c'est que, comme l'avocat l'a dit, attendons de voir ce que les juges vont dire, mais ce n'est pas question pour moi. En tout cas, je ne souhaite pas pour eux une libération comparable en procès parce que la mort de ces gens-là, les gens qui sont morts lors de ces manifestations-là, notamment à Tagbati, etc., la mort de ces gens-là va peser sur leur conscience. Il faut qu'un procès, même s'il doit être en tout cas blanchi, il faut que ça soit à l'échelon. Donc, je pense que, comme pour l'affaire du ministère de la Défense, moi je suis contre en tout cas l'impunité. Je pense que tous ceux qui ont détourné l'argent du ministère de la Défense, tous ceux qui ont commis des erreurs doivent payer. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la société, c'est faire la prison. Et vous savez, les fournisseurs, ce sont des gens qui sont extrêmement puissants, qui ont injecté de l'argent au niveau des médias, n'est-ce pas? Donc, ils ont corrompu les gens au niveau des médias, ils ont corrompu au niveau de la politique. Je sais qu'il y a fait cette campagne-là, une campagne qui a été soutenue pour les fournisseurs. Ah oui, est-ce que les fournisseurs donc, sont coupables? Est-ce que ce ne sont pas les cas du ministère? Blablabla. Comment les procès? Donc, je pense que les fournisseurs sont coupables, c'est du coup du pays. Mais de la même façon, j'ai dit, si tout celui qui commet des erreurs sur le plan civil, sur le plan sportif, et je pense que c'est seulement ce projet-là qui va permettre de brancher ça.
Au Mali, le colonel-major à la retraite, Bandao, est nommé président de la transition malienne. Le colonel Assimi Goïta, l'actuel président du Conseil national pour le salut du peuple, nommé quant à lui au poste de vice-président. L'annonce a été faite dans l'après-midi du lundi 21 septembre à Bamako. La révision des accords de paix, la sécurité du pays et la réconciliation des Maliens doivent être inscrite parmi les défis à relever par cette transition, estime Boubacar Bokoum, analyste politique à Bamako, des propos recueillis par nos confrères du studio Tamani.
Aujourd'hui, l'accord pour la paix, il faut le relire. La relecture de cet accord doit être technique. Intégrer le Mali dans un système de gouvernance globale et avec la configuration de la décentralisation, vers quoi il faut aller? Est-ce que c'est le fédéralisme? Est-ce que c'est le fédéralisme à la malienne? Quel est le concept de l'architecture institutionnelle? Il faut le poser sur la table. Toutes ces choses peuvent être embarquées dans la transition. Mais quand tu l'amènes sur le politique, celui qui va venir après la transition aura du mal à faire accepter un concept que lui, il a élaboré dans un QG. La transition, elle doit être technique. C'est vrai que les techniciens ont réfléchi, par exemple, au système de défense stratégique de la nation. Les techniciens ont réfléchi à un système de bonne gouvernance. Les techniciens ont réfléchi à un système économique viable qui puisse sortir le Mali de cette situation économique où, aujourd'hui, quand vous regardez que la CEDEAO nous harcèle, ça veut dire qu'on n'a pas la souveraineté économique.
Gary Amadou, vous venez là de suivre l'analyste politique Boubacar Bokoum. Quelle réaction son analyse suscite en vous, Gary Amadou?
Moi, je trouve que quand même, M. Bokoum est allé trop vite en besogne parce que pour le moment, on attend de voir la réaction de la CEDEAO par rapport à la mise en place, en tout cas la nomination du président de la transition et son vice-président. Et on attend qu'un premier ministre soit nommé. Mais d'abord, c'est la réaction de la CEDEAO qui va. La réaction de la CEDEAO va dépendre de la suite des choses. Et pour moi, ce qui s'est passé est moi, une sorte d'esquive du Conseil national du salut du peuple par rapport aux exigences de la CEDEAO. La CEDEAO ne peut pas le ministère dans la transition. C'est clair et net, pas que le sommet de Dakar a bien dit ça. Il faut qu'il y ait un premier ministre, un président de la transition, un premier ministre civil. Mais ils ont trouvé une astuce pour mettre à finir l'État vice-président. Et ce qui me rappelle ce qui s'est passé en Russie, pour rappeler, il y a quelques années de cela, Vladimir Poutine s'est retiré du pouvoir. Il a nommé Dimitri Medvedev comme président de la République. Et lui, Dimitri Medvedev l'a nommé premier ministre. Mais on sait que dans la réalité des choses, c'était Dimitri Medvedev qui détient le pouvoir. Donc, pour les gens, Diao là, quoi qu'il soit en retraite, il y a quelques mois de cela, c'est Assimi Goïta qui va détenir les rênes du pouvoir. Complètement à l'opposé de ce que la CEDEAO a fait. Et je pense que la CEDEAO va réagir, même si les militaires, en tout cas, de l'exécutif malien ont eu le soutien pratiquement de la France à travers un comité qui fait sortir qui va la nomination. Mais je pense que ce n'est pas encore gagné. Et l'analyse de beaucoup est un peu trop active, un peu trop compliquée pour qu'il attende de voir la réponse de la CEDEAO avant de commencer. Mais ce qui va être l'architecture de la transition malienne, c'est que fortement, je le rejoins sur un point. L'affaire la question du capital, la question du nom, la question en tout cas des accords de pénalité va faire partie du programme de ceux qui vont gérer la transition.
Houssaine Issa, Jibou, la cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la transition malienne est prévue ce jour, vendredi 25 septembre. Quelles sont véritablement les attentes des populations maliennes?
Mais tu me poses une question un peu compliquée là. Les populations.
Comment ça?
Non, tu me poses. Les attentes d'abord, c'est quoi qui a foutu le Mali en l'air? C'est l'insécurité.
Il y a aussi la mauvaise gouvernance.
Non, mais justement, c'est lié à quoi? Ça va de pair. Ça va de pair. Et c'est dans tous nos pays, pratiquement. Qu'est-ce qui amène toutes ces crises qu'on connaît là? C'est lié à la malgouvernance. Parce que le protocole de la CEDEAO, quand les gens crient CEDEAO, moi je dis CEDEAO même. Parce que le protocole dont on parle, c'est le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Les gens gèrent mal leur pays. Mais la CEDEAO ferme les yeux autour de ça. Mais quand... C'est la mauvaise gouvernance qui amène souvent, qui donne ce bémol-là, qui crée cette situation où des militaires interviennent dans l'arène. C'est pas autre chose. Il faut pas se faire d'illusions. C'est pas parce que vous avez été élu sur la base d'un programme. Vous avez été élu pour créer les conditions pour que les populations vivent mieux. Mais vous venez, vous créez une coterie avec votre famille et tout. Et le peuple dans son ensemble est abandonné. L'école ne fonctionne pas. La santé ne fonctionne pas. L'éducation, l'hydraulique, l'agriculture, rien ne fonctionne. Et vous voulez que les gens, parce qu'au nom d'un mandat, vous voulez que les gens vous observent, que vous fassiez ce que vous voulez, comme si ça vous appartient, comme si c'est un champ d'héritage. Voilà tout le problème. Tout le problème, qu'est-ce que les gens attendent?
Oui, au niveau... Après la nomination du nouveau président.
Et le nouveau président ne va pas faire de miracle.
faut pas se faire d'illusions, il n'y aura pas de miracle. C'est pas possible. C'est pas possible. Là où le Mali a atteint là, c'est pas possible qu'il y ait un quelconque miracle. Il va venir pour 18 mois, en 18 mois là. Tu penses qu'il va redresser quoi? Il peut redresser quoi? Il peut faire ce qu'il peut faire. Il va surtout miser sur comment organiser des élections et remettre le pouvoir aux civils.
Garamoudou pense que la CEDEAO a encore un mot à dire.
La CEDEAO n'a rien à dire. La CEDEAO n'a rien à dire. La CEDEAO. Le Niger a fermé ses frontières. Ça fait combien de temps? Le chef de la CEDEAO, c'est où? C'est pas au Nigeria? Ils ont fermé les frontières. Jusqu'ici, Buhari n'a pas réouvert ses frontières. Jusqu'ici, ça pénalise, y compris nos populations et tout et tout. Il y a cette crise en Côte d'Ivoire où le président Ado, il est en train de vouloir briguer un troisième mandat. Il y a cette crise en Guinée où le président Condé est en train de vouloir modifier la constitution. Mais la CEDEAO ne se prononce pas autour de ça. Et il y a des crises un peu partout. Des crises un peu partout où les peuples disent non, on n'est pas d'accord. Mais la CEDEAO ferme les yeux. Mais la CEDEAO est là, active quand il s'agit. Quand il s'agit de poser des sanctions. Aujourd'hui, les sanctions qu'ils ont décidé à l'encontre du Mali, c'est les populations à la base qui en souffrent. Ce n'est pas ceux qui sont en haut, ce n'est pas les dirigeants, c'est pas, eux, ils ne ressentent pas ça. Mais c'est les populations à la base, parce qu'ils n'ont pas accès à certains produits et tout et tout. Et ça, moi, j'ai dit, ce n'est pas des mesures comme ça qu'il faut prendre. Si vous voulez prendre des sanctions, il faut faire des sanctions ciblées. Pas des sanctions qui concernent tout un pays pour dire, on va imposer. Non, non. Et il faut que la bonne gouvernance là, parce que la bonne gouvernance, on n'en parle pas. Pourquoi ils n'en parlent pas? Parce qu'aucun ne fait la bonne gouvernance
dans son pays.
Dans son pays. Voilà pourquoi ils n'en parlent pas. Et c'est ça, parce que la démocratie, c'est quoi la finalité? C'est la bonne gouvernance. Et quand il n'y a pas ça, mais comment voulez-vous que les gens réagissent? Les gens sont en train de mourir à petit feu. Vous êtes là, dans votre bunker, vous vivez bien, pendant que la grande masse, les populations... Ils vivent au quotidien ou ils survivent pour ne pas parce qu'ils vivent encore c'est
Mouni Diado, beaucoup de défis attendent encore au Mali. Et comment assurer une bonne transition pouvant déboucher à une véritable démocratie au Mali?
Pour déboucher à un véritable je sais pas
une bonne transition
au Mali, c'est d'abord de mettre en place des institutions fiables. Parce que la majorité de ce que nous voyons, ce sont des institutions qui ne servent pas les peuples, mais ce sont des institutions qui servent des individus. Et c'est pour ça que nous sommes toujours en arrière. Ça veut dire qu'on n'avance pas, l'Afrique n'avance pas. C'est pour ça qu'aussi, il y a les coups d'État.
Mais est-ce que la nomination du militaire à la retraite Bandao est un espoir pour les Maliens?
Mais les Maliens croient en ce monsieur. Il garde espoir en ce monsieur. Donc, maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de l'aider. C'est que les populations, les Maliens doivent s'unir derrière cet homme pour pouvoir véritablement l'aider à faire en sorte que le Mali retrouve ses lettres de noblesse.
Mais est-ce que la CEDEAO va le laisser gérer?
La CEDEAO n'a rien à dire, comme a dit Ousseini. Moi, je pense que la CEDEAO ne peut rien faire à ce stade-là. Déjà, ils ont élu ou bien ils ont déjà
désigné le président,
celui qui va mener la transition. Mais c'est demain, il sera investi.
Jusque-là, les autorités qui ont mené ce bras de fer avec IBK, le M5, RFP, n'ont pas encore dit leur dernier mot.
Bon, c'est vrai, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Mais si je pense que le monsieur, l'ancien ministre de la Défense, c'est ça, non? S'il ne peut pas aujourd'hui diriger le pays, le Mali, je pense que ceux qui se taisent, auront déjà des choses à dire avant même sa désignation. Mais il a été désigné et demain il sera investi. Mais s'il ne parle pas, ça veut dire que il consent. Ça veut dire que eux aussi sont en train de, ils consentent à ce que ça soit lui, le meneur donc de la transition. Et je pense que comme l'a dit Ousseini, la CEDEAO n'a rien à dire parce que la CEDEAO ne peut pas venir aujourd'hui devant les Maliens parler de la bonne gouvernance.
Est-ce qu'en 18 mois, cette équipe peut relever les défis
18 mois, ce n'est pas évident. 18 mois, ce n'est pas évident, mais ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. C'est tout. Mais ils ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ça veut dire qu'en 18 mois, ils ne peuvent pas aujourd'hui redresser le Mali convenablement. avec la bonne gouvernance. En 18 mois, ça serait difficile aujourd'hui qu'il ramène la sécurité au niveau donc du Mali. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que le Mali aujourd'hui est à terre. C'est-à-dire que le Mali aujourd'hui, ça n'est pas une transition de 18 mois qui va faire revenir le Mali sur les bonnes rails, mais le Mali a besoin, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid, pour revenir au Mali d'antan, il va falloir mettre des années. Ça veut dire que ils vont préparer une transition, ils vont passer le témoin, le pouvoir donc à un civil, mais maintenant c'est ce civil qui aura du pain sur la planche pour les années qui viennent.
Garé Amadou, que faut-il s'attendre dans les jours et mois à venir?
Oui, mais écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Écoutez, les militaires vont réussir. Ils vont réussir quoi? Il faut savoir d'abord pourquoi ils ont fait le coup d'État. Ils n'ont pas fait le coup d'État pour le peuple. Avenant, ils ont fait des opportunités, c'est des ambitions qui étaient cachées dans l'armée. Les gens qui fuient les camps militaires au nord, les gens qui les terrorisent, ça, tout le temps, ils viennent faire un coup d'État pour s'installer. Dès qu'ils vont réussir, c'est qu'en 18 mois, ils vont se refaire les poches. Vraiment, tous ceux qui vont diriger la transition seront riches à la fin. Et puis, les situations vont rester. Kidal va rester. Kidal avec les forces terroristes là-bas, n'est-ce pas? Le nord sera en tout cas détaché du pays. C'est la situation à laquelle on va. Maintenant, j'ai dit, tous les problèmes pour nous, ça résume. La preuve, c'est que les militaires ont mis la je ne sais pas, le M5 dit qu'il n'est pas associé à la désignation du président de l'Assemblée. Ça veut dire qu'il y a des problèmes encore. Et l'Assemblée, on ne sait pas ce qui va se passer. Franchement, la seule chose qu'ils vont réussir, c'est de remplir les poches. Ça, c'est clair et net. Là, ça, ils vont réussir. Ils vont réussir parce qu'ils n'ont pas fait le coup d'État pour le peuple. C'était une erreur. Ils ont fait croire qu'ils ont fait le coup d'État pour le peuple, ils n'ont pas fait le coup d'État. Ils ont fait leurs propres ambitions. Ils étaient là aux aguets, ils attendaient l'occasion et ils en ont profité. Voilà ce qui va se passer pendant ces 10 mois-là. Mais ne vous attendez pas à des miracles. Un accord, faudrait-il encore que, pas pour le répondre à une sentie, la CDAO ne peut rien dire. La CDAO, c'est moi à dire parce que c'est la CDAO qui a dit la suspecte de la transition, voilà comment elle va être, voilà ce qui va faire la transition. Les militaires rejoignent les casernes, allez dire la guerre. Non, ce n'est pas à ça qu'on a dit. Donc, attendez-vous à ce que la CDAO réagisse. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais attendez-vous à une réaction de la CDAO.
Houssein Issa Djibo, comment mener une bonne transition au Mali?
Moi, je viens de le dire tout à l'heure, je pense. C'est une transition pour tendre vers des élections.
De 18 mois.
Mais bien évidemment. Mais l'état de pourrissement du Mali, là, c'est pas en 18 mois qu'on peut régler ça. Quel est, même avec l'analyse, avec par un coup de baguette magique ou quelque chose, c'est pas possible. On ne peut pas redresser le Mali en 18 mois. La mission qui sera, comment dirais-je, que la transition va conduire, c'est une mission, on a vu dans tous les pays, il y a coup d'État où on met une transition en place, c'est créer juste les conditions d'un retour. Comment veux-je dire, à des élections et remettre au pouvoir aux civils. C'est pas autre chose. Ils ont le temps de faire quoi? Avec quels moyens? Avec quelles ressources?
La réconciliation des
Maliens. La réconciliation ne peut pas se faire en 18 mois. C'est pas possible. La déchirure est tellement profonde que c'est pas possible qu'en 18 mois. Ce qui n'a pas pu être fait pendant combien d'années, ce n'est pas en 18 mois.
Oui, mais est-ce que dans cette transition, l'imam Diko, l'influent, peut avoir quelque chose
l'imam à... L'imam Diko a dit, lui, ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est quand même une autorité morale. Il a suivi le mouvement, il a accompagné, c'est une autorité morale. À partir du coup d'État, il s'est retiré. Il s'est retiré, il dit...
Bon, mais est-ce que c'est la solution?
Mais il va faire quoi? Et qu'il devienne politique. Qu'il devienne politique, c'est griller.
Il peut accompagner les gens de la transition.
Il peut accompagner les gens de la transition sans être dans le système. Sans être dans le système. Il va...
Un consultant,
on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il pense de cette décision. On peut le consulter. Mais ce n'est pas parce qu'il veut occuper un poste de responsabilité quelconque. Il n'en a pas besoin. Il l'a dit. C'est parce que vu sa posture, aujourd'hui, s'il voulait un poste quelconque, il allait l'avoir. Il a montré l'exemple. Y compris au marabout et autres des autres pays. Voilà comment un marabout doit se comporter. C'est moi, je suis imam d'une mosquée. Quand je viens devant, les gens qui s'alignent derrière moi, je ne veux pas savoir si c'est des opposants ou c'est des gens du pouvoir.
je donne la prière à tout le monde. Maintenant, celui qui peut me contester, il n'a qu'à me contester en boycottant ma mosquée.
Mme Ligado, quel avenir pour le Mali?
Bon, l'avenir pour le Mali, là, je ne suis pas un devin pour pouvoir dire ce qui va se passer au Mali ou pas. Mais tout ce que nous souhaitons pour le Mali...
Mais on sait qu'il y a l'insécurité, les Maliens sont divisés, il y avait la malgouvernance.
Oui. Ce qu'on peut souhaiter pour le Mali, c'est que le Mali retrouve d'abord la sécurité, que les peuples se retrouvent entre eux, que la bonne gouvernance soit aujourd'hui installée et que le Mali aujourd'hui retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, ses lettres de noblesse. Et que, bon, que ce soit aussi un pays bon à vivre, hein, un pays où il fait bon vivre, un pays où on l'a connu les années passées, où c'était vraiment, tout le monde avait envie aujourd'hui, avant d'aller au Mali, pour que aujourd'hui vraiment on retrouve. Parce que si aujourd'hui le Mali est déstabilisé, je pense que c'est le Sahel aussi qui est déstabilisé. Le Niger à côté, nous avons le Burkina, c'est ce qui est en train de nous frapper aujourd'hui avec l'insécurité. Donc le mieux, c'est vraiment de souhaiter que la paix revienne dans ce pays.
Alors Gare Amadou, quel avenir pour le Mali?
Vraiment, l'avenir du Mali, nous souhaitons tous un avenir radio pour le Mali. Mais je suis pessimiste comme vous dites, parce que vous savez, les militaires qui sont arrivés au pouvoir, parce que moi je considère que ceux qui vont diriger en réalité la transition, hein, c'est des hommes de paille qui sont en haut, mais c'est les vrais pouvoirs entre les militaires du PNC, ils ne vont pas d'abord régler la question du Kidal. C'est-à-dire que les rebelles et les terroristes vont toujours se côtoyer à l'État. Ils ne vont pas chasser les terroristes de leur pays. Ce qu'ils peuvent faire, c'est ce que Hussein a dit, ils vont juste faire des élections. Ils vont installer les nouvelles autorités. Et quelles sont les nouvelles autorités? Ils vont sortir de la même classe politique, c'est-à-dire des opposants tiers, des chevaliers américains et consorts, des pitorons, bien sûr. C'est-à-dire que c'est la même chose, il n'y a rien de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les mêmes qu'on va installer la même classe politique. Et donc, on va continuer comme ça. Et malheureusement, c'est ce que j'ai dit, c'est grèche de ce pays-là.
Nous sommes au terme de ce forum d'Issidio Kalangou. Merci à nos invités, Maimouna Diado, journaliste indépendante, Ousseini Sajibo, journaliste indépendant, et Gare Amadou du quotidien La Nation. Merci aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues, suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15, samedi, le forum à Hausa sur les enfants en difficulté à Gaïa. Et dimanche, le forum en Zarma en rediffusion sur les droits et devoirs des citoyens en matière de santé au Niger. Merci aussi à la technique côté son assurée par Seyni Saka et côté vidéo Mustapha Ayouba. Merci, au revoir.